crawling, if anything, so there's any other light. Eu queria cumprimentar.
Doutor, se não se importa, eu vou fazer uma introdução. Passo-lhe a palavra.
Je vais faire une introduction et ensuite je vais vous donner la parole. C'est ainsi que ça a été prévu, si vous en êtes d'accord. Très bien. Encore un député qui manque dans la salle, qui va venir. Il est en train d'arriver. Bonsoir, la présence de la conférence des présidents à Lisbonne et dans ce Parlement est une bonne occasion pour discuter de la présidence portugaise. Nous sommes dans la salle du Sénat, Monsieur Pedrinho, président du Parlement, est là, et les 9 présidents des différents groupes politiques. C'est bien entendu le président Gama qui reçoit tous ces présidents. Le vice-président Manuel dos Santos est là également. Il y a beaucoup de jeunes dans le public. Ils viennent de différentes institutions. D'autres représentent des associations de jeunes. Le Portugal va assumer la présidence de l'Union européenne avec un mandat compliqué, l'élaboration du traité institutionnel. Il faut véritablement maintenant établir les orientations qui permettront de gouverner cette Europe à 27. Et c'est la réforme institutionnelle qui est le débat, le thème du débat ce soir. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à M. Pedrinho, le vice-président Manuel dos Santos, les dirigeants des groupes politiques du Parlement européen, les représentants des différentes familles politiques, et je voudrais dire que nous nous réjouissons tout particulièrement de pouvoir les recevoir ici pour discuter avec un groupe de jeunes portugais. Dans ce vieux Parlement portugais qui se trouve dans un monastère du XVIIe siècle et qui, depuis 1934, est le siège de la représentation parlementaire portugaise. Notre pays est un pays qui comprend les résultats positifs qu'ont pu engendrer l'adhésion à l'Union européenne. Le produit national brut s'est accru 6 fois. Le volume du taux et le taux de scolarisation dans l'enseignement secondaire, ce qui est très important pour les jeunes, a augmenté, s'est multiplié par 3, et le réseau des autoroutes s'est multiplié par 10. Donc, c'est un bon résultat de l'adhésion. mais cela signifie également qu'il faut regarder vers l'avenir. Après le sommet de Berlin, il faut jeter un regard vers l'avenir, il faut également jeter un regard vers l'avenir après ce qui a été dit sur les traités institutionnels. Il faut être exigeant. La présidence européenne de l'Union sera sans aucun doute très exigeante avec elle-même et avec l'Union européenne pour qu'il y ait des politiques qui puissent véritablement répondre aux problèmes des citoyens, notamment dans le domaine d'une meilleure formation scolaire et d'une meilleure perspective d'emploi pour que l'Europe puisse se renforcer, soit plus forte dans le monde. Nous sommes aujourd'hui 500 millions d'Européens. Et nous représentons 30% du produit mondial. Nous avons donc une grande responsabilité. Et notre première responsabilité dans la construction européenne, c'est de faire en sorte que tous les pays, sur un pied d'égalité, puissent agir dans cette Union européenne. Et que le monde entier se sente plus fort grâce à une Union européenne plus forte. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. J'espère que ce débat ne sera pas un débat de propagande, mais qu'il sera un débat critique où les jeunes qui sont ici parmi nous, qui ont devant eux les représentants des groupes politiques européens, peuvent leur poser toutes les questions, des questions critiques, parce que la racine de l'Europe, c'est la critique et pas accepter. C'est l'interrogation et non pas la phrase toute faite. Pour construire l'Europe, il faut abandonner les lieux communs européens. Voilà quel est notre sort, voilà quel est notre avenir. Monsieur le Président du Parlement européen va sans aucun doute discuter avec le Premier ministre portugais qui sera le président en exercice. Il va discuter sur le texte du traité institutionnel. Monsieur Pöttering, quel est le renforcement que les parlements nationaux et le Parlement européen peuvent espérer du nouveau traité institutionnel? Madame Campos Ferrar, Monsieur le Président Gama, Monsieur le Vice-président Manuel dos Santos, chers collègues, chers jeunes portugais européens. Alors, la question qui m'a été posée était de savoir quel est le rôle que le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent jouer. Je vais commencer par donner une réponse personnelle. J'ai le privilège, depuis les premières élections directes du Parlement européen, en 77, d'être membre du Parlement européen, et depuis, à l'époque, le Parlement n'avait aucun pouvoir législatif. Et maintenant, pour 75% de la législation européenne, nous sommes traités sur un pied d'égalité. Et avec le nouveau traité qui doit être formulé pendant la présidence portugaise, nous allons donner une véritable réponse à l'avenir et les compétences du Parlement européen seront encore augmentées. Elles seront pratiquement étendues à 100% en tant que co-législateur avec le Conseil. C'est un succès formidable pour la démocratie et pour le parlementarisme. Les parlements nationaux ne sont pas des concurrents, non, ils servent le même objectif de la démocratie et du parlementarisme dans l'Union européenne. Et grâce au traité, les parlements des différents États membres auront la possibilité d'inciter la Commission à leur donner le contrôle de cette législation. Et si la Commission maintient son avis, à ce moment-là, elle doit interroger le Parlement européen et le Conseil des ministres, et ainsi, dans la démocratie européenne, le Parlement européen et les parlements nationaux vont se compléter. C'est merveilleux d'être ici, c'est merveilleux aussi de pouvoir connaître votre vision de l'avenir. Nous sommes ici en tant que collègues du Parlement européen pour comprendre comment vous voyez votre avenir en Europe.
Nous sommes en présence de plusieurs familles politiques de l'Europe. Je vais tout d'abord d'emblée ouvrir le débat aux jeunes qui sont ici présents à l'Assemblée de la République. Suana Philippe, où est-ce qu'elle est? Elle est représentante du Parlement des jeunes. Je lui donne la parole. Je vous en prie. Chers leaders politiques des différents groupes politiques européens, c'est avec un grand plaisir que je suis ici présente. Je vous remercie de l'occasion qui m'est offerte d'être ici. Je voudrais poser une question. La question porte sur le nouveau cadre politique dans le contexte international du 11 septembre et de la guerre d'Irak. Dans ce cadre politique, la position de l'Europe a été à plusieurs reprises ambiguë. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des points de vue divergents quant à la décision à prendre, mais cela a décrédibilisé la position européenne au plan international. Alors, je voudrais poser la question suivante. Comment est-ce qu'on pourrait aller outre ces divergences afin que l'Europe puisse affirmer comme une puissance au niveau politique international et face notamment aux politiques des États-Unis? Je vais donner la parole à un des députés, mais j'aimerais tout d'abord vous dire, comme je l'ai dit au début, que le thème du débat, c'est la réforme institutionnelle européenne. Qui souhaite répondre? Je vous en prie. Monica Frassoni. Bonjour. Très brièvement, je pense que le thème que madame ou que mademoiselle a abordé est une question qui est liée à la question de la Constitution. Parce que dans la discussion qui a eu au Parlement sur la question de l'Irak, nous avons rédigé une résolution où tout le Parlement a dégagé une position majoritaire 2 semaines avant la guerre d'Irak. Alors, qu'est-ce que ça montre? Cela montre que lorsqu'il y a des institutions qui peuvent décider à la majorité, alors il y a une possibilité de dégager une position. Par conséquent, ce que nous pensons, nous les Verts, c'est que le problème auquel l'Europe est confrontée aujourd'hui, la question de paix, de guerre, la question de la démocratie, c'est que souvent, la position des gouvernements qui doivent décider tous ensemble n'ont pas la possibilité de dessiner une position européenne. Et c'est le problème auquel nous sommes confrontés, c'est le problème relatif à la Constitution également. Ce que nous voulons, c'est que l'Union européenne soit un lieu de démocratie supranationale. Et là, on pourra avoir des majorités et des minorités. Parfois, on se retrouvera dans la majorité, d'autres fois dans la minorité. C'est une question de démocratie. C'est une question qui n'est pas encore totalement résolue, surtout pour ce qui est de la question de la politique étrangère. Parce que même aujourd'hui, après la réforme, la question de la politique étrangère reste régie par l'unanimité au Conseil. Et pour nous, c'est un problème. On va entendre l'opinion de l'autre député, M. Joseph Daul, qui est le président du PPE. Toujours dans le cadre de cette politique extérieure, parce que c'est une question qui va être traitée par le traité institutionnel, alors la question que je vais poser est la suivante. Comment est-ce que la politique extérieure de l'Union européenne pourrait être améliorée grâce au nouveau traité institutionnel, grâce à l'institution de nouvelles personnalités, et puis qu'en est-il également pour ce qui est de la lutte antiterroriste dans l'Union?
Oui, si vous permettez, on voudrait d'abord s'excuser, mais ça aussi c'est l'Europe. Le retard des voyages et le retard des avions. Mais d'abord, merci de nous avoir attendus. Je voudrais vous le dire, ça fait partie aussi du travail de tous les jours des parlementaires européens qui sont beaucoup en voyage et qui subissent les aléas et que nous devons accepter. Je voudrais, sur la question que vous me posez, je voudrais simplement vous dire, je viens d'une région qui est la France, l'Alsace, où nous avons vécu la guerre en 1870, 1914-18, 1935, 1939-45. Et c'est grâce à l'Europe que nous avons aujourd'hui 60 années de paix. Et dans cet esprit-là, rien que pour cela, l'Europe mérite d'être vécue. C'est la question que tu as posée. Et c'est vrai que sur le terrorisme, sur les affaires étrangères, nous n'avons pas encore assez de pragmatisme, assez de travail en commun pour résoudre le problème du terrorisme. Et là où tu as raison, ce n'est pas un pays tout seul qui peut régler les dossiers que nous devons régler. Terrorisme, immigration, énergie, ces dossiers sont des vrais dossiers européens et nous devons là avoir avec le nouveau traité, nous avançons dans ce dossier-là pour une politique européenne plus commune, mais nous avons encore beaucoup de dossiers de subsidiarité où nous devons réfléchir, agir. Les pères de l'Europe ont commencé il y a 60 ans, 60 années de paix, et là nous devons continuer maintenant pour que nous ayons une politique beaucoup plus globale européenne sur la question que tu as posée. Je suis d'accord avec toi.
Je vais à nouveau donner la parole à l'auditoire Juan Luis Santos. Monsieur le Président, Monsieur le Député, ma question porte également sur l'action de l'Europe comme un ensemble. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait considérer qu'il est un devoir de l'Union européenne de prendre en compte un pays tel que le Portugal qui a une démographie vieillissante? Je vais reprendre. Le gouvernement prévoit de rembourser les activités d'avortement et n'a pas du tout de politique nataliste, contrairement à l'Allemagne, par exemple. Monsieur Martin Schulz, président des socialistes européens. Alors, vous comprendrez qu'il est difficile de répondre à une question sur une population vieillissante et de parler de cette question devant un auditoire aussi jeune et de répondre sans émotion. Après la réunion, peut-être qu'on pourrait parler de mesures qu'il faudrait prendre concernant le vieillissement de la population. Je pourrais vous donner un certain nombre d'indications quant à ce qu'on pourrait faire. Je ne pense pas qu'il soit judicieux que les États membres de l'Union européenne reçoivent des instructions de Bruxelles pour ce qui est de la résolution de leurs problèmes démographiques. Moi-même, je suis pour l'avortement. Je pense que la décision référendaire au Portugal sur l'avortement était la bonne. Toutefois, j'aimerais dire que l'avortement n'est pas un moyen d'action démographique. Il faut une politique de la famille. Il faut mettre en place des conditions afin que la société souhaite avoir des enfants. Il faut mettre en place une société où les hommes et les femmes pourraient travailler sur un pied d'égalité et où ils pourraient avoir des familles. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il est bien de vivre dans une famille, d'avoir des enfants, lorsqu'on peut donner un avenir à ses enfants. Nous vivons dans une société, partout en Europe, et pas seulement dans mon pays, pas seulement au Portugal, où on dit que c'est une valeur et que ça peut être le sens même de la vie, c'est-à-dire faire une transmission à la génération suivante. Dire que cela vaut la peine de vivre et de transmettre cette idée. Ça, c'est une valeur qu'on a perdue au cours des dernières décennies, et l'Union européenne ne peut pas agir sur cela. Ce sont aux sociétés d'agir sur ce point. Toutefois, il y a un point qui est important d'un point de vue politique. Si on n'agit pas, alors notre continent sera un continent vieillissant. C'est déjà le cas aujourd'hui. 8% de la population vit dans les 27 États de l'Union européenne, mais en 2050, ce sera plus que 4%. C'est-à-dire que 96% de la population ne vivra pas en Europe, mais ailleurs. Et cela pourrait créer d'énormes problèmes pour l'Europe. Et par conséquent, je pense que ce qu'il nous faut, ce n'est pas tant moins d'avortements, mais plus d'enfants.
Oui, moi je voudrais retourner au traité institutionnel. Et je voudrais donner la parole à M. Watson, président de la L2. Nous parlions de valeurs. Et une des valeurs, c'est la charte des droits fondamentaux qui aura une force juridique, mais le Royaume-Uni reste en dehors. Le fait que le Royaume-Uni reste en dehors, est-ce que cela ne fragilise pas cette charte des droits fondamentaux? Oui, je viens du Royaume-Uni. Je viens d'Écosse, pour préciser. J'ai toujours beaucoup d'affinités avec le Portugal. Nous vivons aussi à côté d'un grand pays qui essaye de nous influencer. En tant que libéral, il est incroyable qu'un premier ministre britannique puisse priver ses propres citoyens du type de droit qui ont fait que notre pays a respecté le Parlement. Il n'est pas de mon parti, il s'appelle un socialiste ou du moins un travailliste. Mais il a été tellement obsédé avec cette guerre contre la terreur qu'il a fait un certain nombre de choses dans son pays pour ôter des droits aux citoyens. Et maintenant, au niveau européen, nous avons une législation pour tous les citoyens européens et elle doit s'appliquer partout, pour tout le monde, dans chaque pays. Cela doit être la pierre angulaire de l'Union européenne. Et je pense que la Cour de justice européenne, lorsque nous aurons une juridiction, l'approuvera. Donc je ne pense pas que Tony Blair va s'en tirer en ôtant au peuple britannique les droits qui sont inscrits dans la charte fondamentale. Alors moi, je retire de vos paroles que cette charte est fragilisée par le fait qu'un pays comme le Royaume-Uni n'en fasse pas partie. Non, mais il ne peut pas y avoir de choix. Nous vivons dans une communauté, nous construisons une communauté basée sur des valeurs et nous ne pouvons pas permettre à la Pologne, au Royaume-Uni, à la Slovaquie, qui aurait un gouvernement et qui ne partagerait pas ces valeurs et qui pourrait faire cela. Sinon, on va abandonner. Cela doit être une pierre angulaire. Je vais de nouveau donner la parole à un groupe, à un représentant d'un groupe de jeunes. Merci beaucoup, une représentante. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je voudrais revenir aux deux thèmes précédents, les valeurs fondamentales de l'Union européenne telles qu'elles sont inscrites dans la charte et les valeurs futures. Je voudrais parler de l'environnement. Nous savons tous que dans le traité qui est actuellement en vigueur, les préoccupations écologiques jouent un rôle important puisqu'elles sont indiquées au deuxième et au sixième article du traité. Moi, je voudrais à ce propos poser deux questions très brèves. D'une part, le Parlement se préoccupe que le prochain traité institutionnel maintienne non seulement ses dispositions, mais augmente encore les points qui concernent l'environnement pour préserver notre environnement. En ce qui concerne maintenant le fonctionnement du Parlement, comment le Parlement peut-il veiller que dans son fonctionnement quotidien, l'article 6, c'est-à-dire les préoccupations écologiques, soit pris en considération dans toutes les politiques. Il y a ici des représentants des secteurs de l'agriculture, de la pêche, du transport, du tourisme, et ce sont des thèmes qui nous intéressent particulièrement. Nous pensons qu'il est important d'avoir de bonnes politiques de l'environnement, mais la politique de la pêche, la politique agricole commune, mine les progrès qui pourraient être réalisés. Je voudrais maintenant donner la parole à M. Wurtz, du groupe de la gauche confédérale, ou alors un autre député. Vous, M. Wurtz?
Je vous remercie, madame, et je voudrais vraiment dire que je me réjouis de la fraîcheur des questions qui sont posées depuis le début. Je ne peux pas me retenir de dire un mot sur ce qui, à mon avis, traverse ces trois questions, à savoir qu'avant de parler des institutions, il faut parler des valeurs et même de la vision de l'Europe au service de laquelle ces institutions sont conçues. Le fait de proscrire tout recours à la guerre comme moyen de régler les problèmes du monde devrait être tel quel, inscrit dans la charte. Ça n'est pas le cas. C'est une faiblesse. Le fait qu'il doit être garanti à chaque femme le droit de disposer de son corps devrait être inscrit dans la charte. Ce n'est pas le cas. C'est une faiblesse. Sur la question de l'environnement maintenant, je pense que le Parlement s'est préoccupé, et ce sera certainement une grande préoccupation dans la prochaine période, en particulier la question du réchauffement climatique et de toutes ses implications, l'énergie propre, les transports en commun, la construction de logements bien isolés, c'est-à-dire toute une série d'implications qui vont traverser une conception nouvelle de la vie en commun et donc également de la production. C'est vrai également pour les questions agricoles, comme ça a été dit. Je pense donc que chaque fois qu'on évoque les questions institutionnelles, il faut toujours se demander d'abord au service de quelle vision de l'Europe on veut les mettre en œuvre.
Je me demandais à Joseph Daul s'il est d'accord avec cet avis qui vient d'être exprimé.
Oui. Probablement vous me posez la question parce que je suis un ancien président de la commission de l'agriculture. Et je suis agriculteur. Donc j'ai démarré sur une petite exploitation de 9 hectares, pour vous dire. Donc sur la politique agricole, je crois que sur la politique agricole, on nous a fixé d'abord un premier défi. C'est de nourrir l'Europe parce qu'on était en déficit. Nous avons mis en place une politique où nous avons fabriqué des excédents qui a coûté cher à la société. Et aujourd'hui, je ne me pose plus la question uniquement des agriculteurs, je me pose la question de la sécurité alimentaire à moyen et long terme, dans le monde. Et je crois que vous avez raison, on doit se poser cette question-là. Et après, nous devons, pour les agriculteurs qui sont des agriculteurs, pour la société qui sont des consommateurs, se poser les vraies questions pour voir quelle politique nous mettons en place après 2013. Et nous avons là une grande responsabilité, tout en respectant l'environnement, nous avons là une grande responsabilité de ne pas se tromper quelle politique agricole et sécurité alimentaire pour nos 500 millions de consommateurs après 2013. Donc nous pouvons travailler ensemble pour mettre en place la bonne politique, parce que ça sera la vôtre.
Sur la même question, qui est la question du climat et la question de l'agriculture, je vais donner la parole à Brian Crowley, co-président du groupe de l'Union pour l'Europe des Nations. Merci. Et merci à Vera pour sa question. L'environnement est la question du moment. Et je pense que ce serait une erreur si on disait que les questions qui traitent dans l'environnement sont les questions A, B et C, parce que, comme on le sait, ces questions vont beaucoup plus loin que simplement le changement climatique, même si c'est une question très importante. Toutefois, je pense également que très souvent, les informations qu'on a, si vous prenez par exemple la politique commune de la pêche, oui, effectivement, on devrait avoir une politique permettant des stocks durables en matière de pêcherie. Alors, il y a beaucoup de régulations au niveau de l'Union européenne, mais pas en dehors de l'Union européenne. Idem pour la PAC. Si vous voyez les dégâts environnementaux causés par les émissions de CO2, vous verrez qu'il y a plus d'émissions produites sur les routes européennes que dans le secteur agricole. Et pourtant, on pointe l'agriculture du doigt. Encore une fois, je pense que c'est une erreur de dire qu'il faut réformer la PAC ou stopper la politique agricole commune et ainsi on solutionnera le problème environnemental. Parce que Joseph Daul l'a dit, le consommateur demande une bonne qualité alimentaire, une bonne qualité en matière de bien-être des animaux et une bonne qualité de la gestion de l'environnement. Et nous avons réformé la PAC afin de faire un audit de l'utilisation faite par les agriculteurs des subventions qui leur sont versées. Par exemple, voir ce qu'ils font en matière de protection du bien-être des animaux et en matière de protection de l'environnement. Et puis, je vais revenir à un point qui a déjà été abordé par Georges sur la question des valeurs et des valeurs européennes. Les valeurs de Jean Monnet, de Robert Schuman et d'autres personnes il y a 60 ans sont différentes des valeurs d'aujourd'hui. Et les valeurs d'aujourd'hui seront différentes des valeurs que vous aspirerez voir s'inscrire dans une législation dans 10 ou 20 ans. Et par conséquent, il faut s'assurer qu'en incorporant ces nouvelles valeurs, les valeurs de base qui devraient faire partie de toutes les sociétés, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou pas, le droit à la vie, le droit à vivre, à gagner sa vie, le droit à l'éducation, le droit à exprimer son opinion, si ces droits sont garantis, tous les autres droits vont se mettre en place. J'ai abordé une des grandes questions qui touche l'humanité et tout particulièrement l'Europe, à savoir la question climatique dont on parle. Cette question sera inscrite dans le traité institutionnel, mais de quelle façon est-ce que le Conseil, le Parlement et la Commission pourraient, de façon plus pratique et plus pragmatique, défendre cette question de l'environnement? Monsieur Peter Bond, qui, je le dis, vous êtes le président d'un groupe au Parlement européen, Indépendance et démocratie. Merci beaucoup. Je pense que la question va droit au but, parce que le problème, c'est précisément celui-ci. Nous avons une politique environnementale où il est possible d'établir des règles minimales, et chaque État membre peut aller au-delà de ces règles. Ensuite, il y a la politique de santé où il est possible d'améliorer les règles en matière de santé de façon autonome. Et ensuite, il y a les principes horizontaux, la santé et l'environnement, qui devraient être impliqués dans toutes les politiques sectorielles. Et c'est véritablement le problème. C'est une bataille dont le Parlement s'est lancé. Lorsqu'on parlait, par exemple, des gaz fluorés qui détruisaient la planète, bien, la Commission, selon le traité, nous empêcherait ou nous empêchait d'interdire ces produits qui nuisaient au climat. À la fin, nous avons négocié un accord et on nous a autorisé à interdire les gaz fluorés qui détruisaient le climat. Ensuite, on a eu les pesticides dans l'eau potable. Encore une fois, nous avons remporté la bataille. Ensuite, il y a les transfats, les acides, les graisses transfats dans les McDonald's et dans d'autres types d'alimentation rapide. Et là, on nous a interdit d'interdire. Ensuite, on a remporté la bataille. Par conséquent, le Parlement européen est capable de faire valoir les principes horizontaux dans le cadre des politiques sectorielles. Cette bataille se poursuit. Pour le climat, on aura exactement le même problème. La politique de transport produira de la pollution et ensuite on devra essayer de réduire cette pollution. La politique de l'agriculture, qui est bien représentée ici, pourrait détruire la santé et donc il va falloir essayer de mettre en avant la santé avant le reste. Il faut que l'environnement soit un principe horizontal qui régirait toutes les autres politiques. C'est dans les traités, mais ce n'est pas appliqué. Comme je l'ai dit, c'est un combat dans lequel la plupart d'entre nous sommes engagés. Pas tout le monde, mais la plupart. Merci. José Le Delegache de la Fédération des Jeunes Européens. Je vous en prie.
Bonsoir. Je voudrais vous remercier de nous avoir donné la chance à la RTP, au Parlement. Et je voudrais vous dire que vous devriez revenir. Ce n'est pas une règle, cela devrait devenir une règle. On a décidé d'abandonner le traité constitutionnel. Le Conseil européen de Berlin n'a pas été un progrès pour nous. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez du fait qu'on a en fait bradé les droits des 10 pays qui avaient approuvé le traité constitutionnel. Ce n'est pas un bon exemple pour les citoyens. Comment un député européen peut-il expliquer à un habitant de ce pays ou d'un autre pays qui a ratifié le traité constitutionnel, quelle explication donne-t-il? Je vais donner la parole au M. Bruno Gollnisch, président du groupe ITS. Merci beaucoup de votre question. Je vais maintenant continuer en français, parce que j'ai oublié mon portugais.
Très intéressante. Je fais partie de ces députés européens qui ont contesté la Constitution et qui, parce qu'ils ont contesté la Constitution, contestent aussi le traité. Et d'une certaine façon, je vais vous rassurer, parce que dans le traité, on retrouve tout le dispositif institutionnel de la Constitution. J'ai le texte ici en portugais des conclusions de la présidence, et vous verrez que simplement on évite le mot. On évite le mot constitution, on évite un certain nombre de mots comme loi, loi cadre, mais on évite de citer le drapeau, l'hymne, la devise, mais c'est purement sémantique. Donc c'est quand même très intéressant à lire et vous verrez qu'il y a la Constitution. Alors comment peut-on être européen et être contre la Constitution? C'est un problème de fond, la majorité ici est en faveur de la Constitution et j'appartiens avec quelques autres à la minorité. Pourquoi? Parce que je pense que l'Europe, c'est historiquement l'espace qui a inventé cette chose extraordinaire qu'on ne retrouve dans aucune autre civilisation, qui est la liberté et l'égalité des nations. Et c'est une chose qui, par exemple, faisait la surprise des premiers samouraïs japonais qui ont visité le Portugal au XIXe siècle, après deux siècles de fermeture, et qui ont vu que le Portugal vivait en paix à côté de l'Espagne, à l'abri d'un droit international, et que l'Espagne plus grande et plus puissante ne cherchait pas à l'absorber. Alors, il y a plusieurs conceptions de l'Europe. Il y a notre conception, qui est celle d'une organisation internationale qui met en œuvre des projets concrets de coopération, dont les coûts peuvent être connus par les citoyens, ainsi que les avantages, qui garantit la sécurité commune, l'intangibilité des frontières, qui est fondée sur les valeurs européennes. Et d'un autre côté, il y a ceux qui veulent aller plus loin, à mon avis, qui se trompent, qui veulent un super-État qui va diriger en direct la vie de 400 millions d'Européens. Déjà dans mon Parlement national en France, 80% du travail législatif, c'est purement et simplement l'adoption des règles européennes dans le droit national. Et moi, je fais entendre une voix dissidente, et pour cette raison, elle doit être brève. Je reviens sur la question qui a été posée, par exemple, à propos de la sécurité. Je crois que l'Europe doit garantir la sécurité contre une agression commune. Et dans ce domaine, la coopération est tout à fait légitime. Mais si nous avions eu une politique de défense et de sécurité à la majorité, eh bien, tous les pays d'Europe auraient été entraînés, même ceux qui ne le voulaient pas, dans la guerre d'Irak. Comme ils ont été entraînés dans la guerre du Kosovo, je fais partie de ceux qui pensent que mon pays n'avait pas d'intérêt à participer à la deuxième guerre d'Irak, ni à la guerre du Kosovo, et que cela doit rester le droit de chaque pays, de chaque peuple, d'en disposer ainsi librement. C'est la raison pour laquelle je crois que le Portugal d'Afonso Henrique, de Jean de Bragance, des navigateurs, des poètes, doit rester indépendant et que son destin doit se décider à Lisbonne et pas à Bruxelles.
Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur Patrin, vous avez la même opinion?
Monsieur Patrin, êtes-vous du même avis? J'ai demandé la parole et je vous remercie de m'avoir donné la parole pour montrer toutes les opinions qui existent au Parlement européen. Lorsque M. Gönisch a parlé de la paix entre l'Espagne et le Portugal, la règle dans la longue histoire de l'Europe, dans l'histoire de l'Europe, les peuples se sont combattus, ont mené des guerres. Dans toutes les guerres, c'était presque une obligation. De jeunes Allemands se battaient contre de jeunes Français, les Polonais, les Français contre les Espagnols. Dans toutes les générations, il y a eu des guerres sur le continent européen. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des hommes et des femmes intelligents. À l'époque, plus d'hommes, mais aujourd'hui, il y a en politique beaucoup plus de femmes intelligentes qui ont dit « fini avec cela ». Nous devons nous réconcilier, nous devons construire cette Europe commune. Et cette Europe ne serait pas une véritable Europe si c'était les grands États qui dominaient. Nous avons besoin des États, des institutions, un toit sur cette maison Europe. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un Parlement européen, d'une commission. Et vous pouvez en être fier que c'est un Portugais, M. Barroso, qui est président de la commission. Même si tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec lui, c'est un point de vue personnel. Nous avons besoin d'un conseil qui est ouvert, transparent lors de ces réunions et en tant que législateur. Et nous devons nous retrouver tous dans cette Europe. Et personne ne, comme le disent les, ceux qui sont contre l'Europe, personne ne veut un super État. Qui le veut, Monsieur Gollnisch? Personne. Non, nous voulons une Europe démocratique qui puisse agir. Et ce ne sera que si nous avons une Europe des États que nous pourrons défendre nos identités dans nos pays, dans nos communes, dans nos villes, dans les régions. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons les défendre. Le Portugal ne peut plus défendre toute seule ses valeurs dans le monde, mais ensemble avec d'autres, à 500 millions dans l'Union européenne, nous pouvons le faire, et c'est pourquoi c'est une évolution magnifique que d'avoir adopté cette voie de la réconciliation au cours de ces dernières années. Et c'est vous, si un jour vous souhaitez siéger dans ce Parlement en tant que député ou au Parlement européen, où vous aurez des responsabilités, ceci ne peut pas être remis en question. L'Europe, ça veut dire la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, les valeurs humaines et surtout la paix. Et c'est pourquoi nous devons continuer sur cette voie, et la majorité du Parlement est en faveur de cela.
Car la mort de la jeunesse socialiste, où est-ce qu'elle est? Je ne suis pas ce que vous avez dit, je suis présidente du Conseil national de la jeunesse, non pas de la jeunesse socialiste. Petite rectification. Donc, vous n'êtes pas socialiste. Très bien. C'est l'indication qu'il y avait sur ma fiche. Je suis président du Conseil national de la jeunesse. Je souhaite vous remercier de cette invitation lancée par l'Assemblée afin de participer au débat d'aujourd'hui. Nous débattons et nous posons des questions sur l'avenir de l'Europe. Il y a deux questions que le Conseil national de la jeunesse souhaiterait voir débattues ici et pour lesquelles des réponses devraient être apportées par les députés ici présents, à savoir, pendant la présidence portugaise de l'Union européenne, il va y avoir une révision de la stratégie de Lisbonne. Et surtout, il va y avoir une révision du pacte européen de la jeunesse et l'application de ce pacte. Donc, la question est la suivante. Quels sont les défis qui nous attendent et comment est-ce que vous souhaitez impliquer les jeunes dans le processus de révision de la stratégie de Lisbonne et comment vous entendez appliquer le pacte de la jeunesse européenne? Alors, une autre question. Ah non, une question à la fois. Une question à la fois. Elena Belalowska, qui représente les non-inscrits. Merci. Je pense que non seulement l'Europe vieillit, mais les traités vieillissent également. Donc il nous faut un nouveau traité et un nouveau positionnement. Et je suis ravi que la présidence portugaise commence avec cette ouverture sur ces discussions. Hier, nous avons eu d'excellents débats au Parlement européen avec votre représentant, le ministre de la Santé. Il nous a parlé des priorités de la présidence portugaise pour ce qui est de la lutte contre le cancer. Ça, c'est une question très importante en Europe. Il s'agit de voir comment est-ce qu'on pourrait lutter contre cette maladie maligne. Alors, on a parlé précédemment de l'environnement, mais il y a un volet important de l'environnement, c'est la santé. Je pense qu'il faut que l'Union européenne définisse une nouvelle position, parce que si on a une liberté de circulation sans un accès à des soins, ça n'est pas vraiment une liberté de circulation, s'il n'y a pas l'accessibilité des soins. Donc ça, c'est peut-être une idée à mettre en place par la présidence portugaise pour les années à venir. Je vous en prie. Je vais maintenant donner la parole au député Watson. Merci. Je vais poser une question à l'auditoire. Combien de personnes ici pense que la mondialisation de l'économie est une bonne chose? Levez la main si vous pensez que la mondialisation de l'économie est une bonne chose. Ok, très bien. Qui pense que c'est une mauvaise chose? Levez la main. Est-ce que quelqu'un pense que la mondialisation de l'économie est une mauvaise chose? Très bien. La stratégie de Lisbonne, c'est la préparation de l'Europe. Comment préparer l'Europe à une économie qui est de plus en plus mondialisée? Comment être concurrentielle? Certaines personnes à cette table vous diront, on ne veut pas d'une économie de libre marché parce que une telle économie ne prend pas en compte les gens. Moi, je vous dirais, en tant que libéral, que le marché est l'outil le plus puissant à notre disposition pour rendre les gens riches. Ce n'est pas une valeur en tant que telle, mais à moins qu'on ait une économie compétitive, on ne pourra pas fournir une bonne sécurité sociale, de bons hôpitaux, de bonnes écoles, de bons transports publics, etc., etc. Et donc, faisons ce que la présidence portugaise a à l'esprit. Ayons une économie concurrentielle avec, en plus, un débat sur la question de savoir comment on pourrait protéger les personnes qui perdront leur emploi pendant la période transitoire et comment est-ce qu'on peut les former afin qu'ils puissent saisir les nouvelles chances offertes par la mondialisation. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, achetez mon dernier livre. Il s'appelle « La démocratie libérale et la mondialisation ». Vous pouvez le commander sur mon site www.grahamwatsonmep.org. Très bien. On va saisir cette occasion. Avant de donner la parole à Monica Fassonnet, puisqu'on parle de stratégie de Lisbonne, M. Tactol a été un des artificiers de cette stratégie. Je pense que vous avez été à la base d'une grande partie de ce qui est sorti de la stratégie de Lisbonne, parce qu'il s'agit surtout de proximité des citoyens en matière d'emploi et d'innovation. Est-ce que vous pensez que pendant cette présidence portugaise, et surtout dans le cadre de cette réforme institutionnelle, on pourrait approfondir la stratégie de Lisbonne?
Après 5 ans, le Conseil avait décidé à Lisbonne la stratégie de Lisbonne. Au Parlement européen, on a regardé et puis on a vu que ça n'avançait pas très vite. Donc après 5 ans, nous avons créé le groupe de stratégie Lisbonne pour essayer effectivement de la création, économie, emploi, tous les dossiers que vous connaissez. Et je pense que les dernières 5 années, nous avons réussi avec les parlements nationaux à discuter, à travailler sur cette stratégie de Lisbonne qui est beaucoup plus de la responsabilité des parlements nationaux et des gouvernements nationaux pour la mettre en place, dans un cadre bien sûr européen, et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour réussir. Ce n'est pas uniquement le libéralisme. Je suis aussi un libéral, pas tout à fait comme Graham Watson. Moi, mon libéralisme, je vais vous l'expliquer. C'est un terrain de foot, il y a 2 équipes, que le meilleur gagne, mais il y a des règles. Il y a des règles. Donc, il faut qu'il y ait des règles, parce que ça aussi, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on ait des règles. Et, mademoiselle, sur la stratégie de Lisbonne, ce que nous avons essayé avec le Parlement européen, c'est d'essayer de faire travailler ensemble les gouvernements et les parlements nationaux pour que nous ayons plus de pouvoir d'achat pour nos concitoyens, plus d'économie européenne. Et je pense que les 4 ou 5 ans où nous avons réussi à travailler ensemble, à parler de cette stratégie de Lisbonne, à fixer des priorités au niveau européen avec les parlements nationaux et avec les gouvernements nationaux, nous avons quand même une certaine avancée passée. Ça ne va jamais assez vite, surtout pour les jeunes que vous êtes, mais nous avons réussi quand même à relancer la stratégie de Lisbonne. Maintenant, il faut encore la pousser.
Non, pas de livre à vendre.
Vous n'avez aucun livre à vendre. Vous n'avez aucun livre à vendre? Monica Frassoni, co-présidente des Verts. Moi, je voudrais répondre à 2 questions qui ont été posées. La première, que devons-nous dire aux 18 pays qui ont ratifié la Constitution? Je crois que ce qu'il faut leur dire, c'est que l'histoire ne finit pas ici et que ce que nous allons faire maintenant, nous l'espérons. Moi, je pense que c'est une des grandes responsabilités de la présidence portugaise, c'est-à-dire de sauver le maximum et de peut-être même essayer d'améliorer certaines choses qui sont actuellement dans le traité. Nous ne sommes pas du tout contents en tant que Verts de cela. Mais comme vous l'avez vu, nous sommes un Parlement normal avec différents groupes politiques et avec différentes idées. Mais les décisions se prennent à la majorité. Et c'est cela le problème de l'Europe. C'est pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Wurst, dit que les institutions viennent après. Les institutions doivent être démocratiques, ouvertes, elles doivent permettre la décision. Et le problème en Europe, c'est que la décision est très difficile à prendre. Et c'est Et c'est ce que nous devons dire aux 18 pays. Il faut continuer à lutter, même si nous ne sommes plus 27, même si certains restent en retard parce qu'ils ne souhaitent pas. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne souhaitent pas. Voilà le problème de la construction de la démocratie européenne qui n'est pas terminée. Sur l'environnement, nous devons nous rendre compte d'une chose. La question de l'environnement n'est pas un truc en vogue. C'est une politique dure. Nous sommes un petit groupe, on crie beaucoup, on fait beaucoup de bruit dans le Parlement européen, mais nous ne gagnons pas toujours les batailles. Parce que je dois convaincre mon voisin, par exemple, c'est difficile, sur la question des énergies renouvelables, sur la question des voitures, de l'agriculture, des OGM, c'est des choses difficiles. Et donc, nous avons absolument besoin que les personnes qui comprennent mieux puissent nous soutenir dans cette bataille, parce que c'est difficile et parce que les lobbies industriels disent « ce n'est pas grave, on peut trouver une solution, il ne faut pas se préoccuper, on peut se promener dans de grosses voitures ». Mais il faut bien se rendre compte qu'il faut se battre au niveau national et européen. Félicitations pour votre portugais, madame, monsieur Schulz.
Ah, bon portugais.
Votre portugais est vraiment excellent. Tout d'abord, je voudrais dire à cette jeune dame qui a dit qu'elle n'était pas socialiste. On peut changer les choses, hein. Le vote que M. Watson et la publicité qu'il a faite à son livre. Moi, à l'époque, j'étais libraire, mais je ne vends pas son livre. Je pense que tout ceci est un peu trop simplifié. À vote, c'est très bien, tout le monde est pour la globalisation. Moi aussi, je suis pour la globalisation, si elle est équitable, et si tous peuvent en profiter, alors c'est bien. Mais le problème, c'est que tous ne profitent pas de la globalisation. La globalisation pour le courtier à la cité de Londres, c'est magnifique. Mais pour l'ouvrier dans l'industrie automobile ici au Portugal qui a perdu son emploi, pour lui, la globalisation, c'est très dangereux. Et si nous avons un libéral comme Graham Watson qui dit la libéralisation, c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait des règles à cette globalisation, avec des règles internationales pour la justice. Et puis nous verrons si le vote est le même qu'il y a eu, que vous avez fait ici aujourd'hui. Donc la globalisation, c'est bien si elle contient trois choses. Tout d'abord, la globalisation doit être utilisée pour mettre fin à la misère et à la faim dans le monde. Et le gouvernement portugais le dit très justement. Nous souhaitons que l'Afrique puisse également profiter de la globalisation. Secondo, la globalisation est bonne si ce n'est pas le capital, la finance qui en une seconde peut acheter une entreprise et en quelques heures revendre cette même entreprise, et entre la vente des deux entreprises peut mettre fin à un certain nombre de postes de travail. Ceci ne doit pas être possible. Alors, la globalisation sera bonne. Et ce qu'il faut faire également, c'est dire que la Terre est menacée. Si les taux de croissance de l'Asie et de la Chine sont utilisés avec la consommation énergétique, nous nous sommes permis, en tant qu'Européens-Américains, la fin de la Terre est très proche. Et si la globalisation a comme conséquence que notre technologie est utilisée pour un environnement plus propre, pour des technologies énergétiques plus propres, si nous faisons quelque chose de positif pour l'environnement en Asie, en Amérique latine, à ce moment-là, la globalisation va... En principe, oui, mais c'est comme en Union soviétique, en principe, oui, mais il faut peut-être encore poser quelques questions complémentaires.
Permettrez de prendre quelques questions qui vont être posées. Parti populaire, représentant du Parti populaire, Joan Condeixa, est-ce qu'il est dans la salle? Je vous en prie. J'espère ne pas m'être trompé, vous êtes bien du Parti populaire, oui, et j'entends cela avec plaisir. Bon après-midi à tous. Je ne suis pas socialiste. Je pense que la, L'erreur est humaine. La question que j'aimerais poser porte sur la compétitivité de la politique fiscale en Europe. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut une Union européenne forte, une Union européenne compétitive. Mais pour que cette compétitivité puisse se concrétiser, il faut qu'au niveau de la politique fiscale, chaque pays, chaque État, puisse décider de ce qui lui convient au mieux et de ce qu'il considère être le chemin le mieux tracé afin de passer un certain nombre d'obstacles. La question que je pose est la suivante. Quel est le projet de l'Union européenne au niveau de cette politique fiscale? Est-ce qu'on a pensé à une uniformisation du cadre fiscal? Je pense que ce serait une erreur parce que ce serait contrarier le marché, on réglementerait par trop. Alors je n'ai aucun livre à vendre, surtout pas sur le libéralisme, mais je pense que le protectionnisme et l'uniformisation excessive, c'est toujours une erreur. Et au niveau de la politique fiscale, j'aimerais savoir quels sont les projets en cours. Francis Vaughan.
Merci madame. Votre question me permet d'illustrer concrètement le rapport entre la visée qu'on assigne à l'Europe et les institutions dont on veut les doter. Puisque les partisans de la règle du vote à la majorité qualifiée dans le plus de domaines possible sont aussi souvent ceux qui, sur la question de la fiscalité par exemple, ou du social, veulent, comme vous le préconisez vous-même, absolument maintenir l'unanimité. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est par ce biais que vous pouvez empêcher une harmonisation fiscale, qui est une condition même d'un bon fonctionnement d'une communauté. Parce que nous sommes maintenant dans une Union européenne dont les membres se font la guerre économique par l'intermédiaire du dumping fiscal. Ça doit absolument changer. Malheureusement, dans le traité tel qu'il vient d'être mis à nouveau en chantier, il n'est pas prévu de modifier l'unanimité sur les questions fiscales. Je pense qu'il faudrait au contraire un vote à la majorité qualifiée sur l'impôt sur les sociétés pour en finir avec ce blocage de la part des États les plus libéraux. Et maintenant, je voudrais dire un mot sur plus généralement la question, au nom de la compétitivité, de la régulation ou de la dérégulation. Parce que je pense que c'est le problème qui est au cœur du malaise social qui s'étend dans l'Union européenne vis-à-vis des institutions européennes actuelles. Le commissaire McCreevy, qui est le commissaire au marché intérieur, a donné une explication extrêmement juste, à mon avis, en revanche, extrêmement condamnable, mais elle est juste par rapport à la réalité, de ce que c'est que le marché unique. Il a dit le marché unique, c'est l'exercice de déréglementation le plus poussé et de loin de toute l'histoire récente de l'Europe. C'est pour ça que les gens, beaucoup, beaucoup de gens, ne se retrouvent pas dans cette conception de la construction européenne. Moi, ma critique, puisque le président du Parlement nous a invités à avoir un débat critique et de sortir des lieux communs européens, je le remercie et je le fais. Ma critique vis-à-vis de l'actuelle orientation européenne n'est pas du tout celle de M. Gollnisch. Pas du tout. Mon problème n'est ni le drapeau européen, ni les hymnes européens. Je suis pour l'Europe. Et si dans le monde actuel elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais je suis pour une Europe avec une priorité sociale, au nom de la compétitivité. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que le président de la Banque Centrale Européenne a assisté il y a quelques semaines au congrès des syndicats européens, de la Confédération Européenne des Syndicats. Et il leur a dit, il faut accepter la modération salariale, il faut la compétitivité des prix, il faut contribuer à lutter contre l'inflation en acceptant de baisser vos salaires. Il a eu l'unanimité de tout le Congrès contre lui. Or, c'est une grande orientation de l'Union européenne actuelle. Bien, il faut la combattre. Au nom de l'Europe, il faut la combattre. Voilà, je pense, ce qu'il faut dire. De même, M. Steinbrück, qui est le ministre des Finances, l'économie des Finances allemand, qui préside actuellement encore le Conseil économique et finances, économie et finances, a lui-même dit dans un petit cercle, mais c'est public, a dit l'Europe risque une crise de légitimité du modèle économique et social. C'est juste, ce diagnostic est juste, mais on n'en a pas parlé. dans les négociations au dernier Conseil européen sur le futur traité. Ce sont des il ne doit pas y avoir de questions taboues. Et je compte sur la présidence portugaise pour que dans la conférence intergouvernementale, ce genre de questions taboues reviennent sur le tapis. Et je devrais plutôt dire, je compte sur les opinions publiques pour obliger nos dirigeants à le faire, parce que c'est comme ça, à mon avis, qu'on ouvrira la voie
Brian
de surmonter Crowley. La crise de confiance entre les citoyens et l'Union européenne. Merci.
Brian Crowley. Merci. Et encore une fois, je vais essayer de répondre très brièvement aux deux questions. Enfin, je vais poser et répondre aux deux questions. La question de la fiscalité et de l'harmonisation fiscale. Alors, certains diront qu'il y a une politique fiscale libérale. Je pense que c'est plutôt réaliste. Si on mène une telle politique, il y a une croissance de l'économie, donc on peut utiliser ces recettes fiscales pour le secteur de la santé et l'éducation. Je pense que ce serait une erreur d'avoir un système harmonisé en matière fiscale. Deux exemples. Les deux récents exemples d'harmonisation dans le marché unique que l'on a, c'est les États-Unis et l'Union soviétique. Si vous souhaitez utiliser les recettes fiscales de la façon dont ces deux systèmes semblent fonctionner, très bien, mais d'autres choses en souffriront. Donc je pense que ce serait une erreur si on avait une politique d'harmonisation fiscale. Maintenant, sur la question de la concurrence, oui, il y a une concurrence mondiale. Nous sommes confrontés à des faibles coûts de main-d'œuvre en Chine et en Inde. Mais je ne pense pas que les travailleurs européens devraient se rabaisser au même niveau salariaux en Inde et en Chine. Je pense que notre tâche, ça devrait être de forcer ces pays à rétribuer de façon juste leurs travailleurs et dans le même temps fournir des compétences aux travailleurs européens afin de pouvoir concurrencer dans ces secteurs. Enfin, sur la question de Carlos, vous avez dit, est-ce que votre voix va être écoutée dans la stratégie de Lisbonne et son examen? C'est à vous de faire en sorte que votre voix est écoutée. Et c'est à vous et à des gens comme vous de nous contacter, nous, au Parlement européen, et à contacter le Parlement national afin que votre opinion soit entendue. Vous avez une grande occasion de le faire grâce à l'Internet afin de faire porter votre voix. Alors, je le dirais, il n'y a rien de pire pour un responsable politique qu'un groupe qui souhaite faire valoir des revendications juste avant une élection. Donc, si vous posez des questions, vous aurez des réponses. Pedro Gravage.
Pedro Gravage, de la jeunesse socialiste. Je me trompe? Non, non, vous avez raison. Voilà, quelqu'un de votre famille politique, monsieur Schulz. Bonjour. Je voudrais poser une question très simple. Puisque nous avons devant nous des représentants des différentes familles politiques européennes. J'aimerais savoir s'ils estiment qu'il y a un déficit démocratique dans l'Union. Nous entendons souvent des dirigeants nationaux qui ne se responsabilisent pas pour les décisions les plus impopulaires qui sont adoptées au Conseil européen. Alors la question est la suivante. Les citoyens européens, que doivent-ils penser de ces décisions qui souvent sont impopulaires et quelquefois portent atteinte aux droits sociaux des citoyens européens? Très bien, oui. Merci. Une réponse rapide. Une réponse rapide, il ne reste plus beaucoup de temps. Je crois qu'il faut dépasser le déficit démocratique. Il faut vous demander à vous, est-ce que vous aimez cette constitution? Il faut qu'il y ait un référendum, c'est là que la démocratie commence. Il faut demander aux populations. Et puis il faut voir le manque de démocratie dans la constitution. C'est quoi une démocratie? Il faut avoir des élections, il y a une nouvelle majorité, une nouvelle loi. Et il faut, pour la Constitution, également demander des élections. Mais on ne peut pas dire que c'est la loi. La Commission à Bruxelles, qui n'est pas élue, est la seule qui peut proposer une nouvelle législation. Et ce n'est qu'une majorité qualifiée au Conseil qui peut approuver une législation. Une majorité au Parlement ne peut pas le faire. Nous ne pouvons qu'amender des lois. Et puis c'est un non-élu qui décide si nos amendements sont bons ou pas. Alors, ce qui nous manque, c'est la démocratie. Toutes les législations devraient être adoptées à la majorité au Conseil et une certaine majorité au Parlement. Ainsi, on peut avoir des élections. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un déficit démocratique. Et il va maintenant augmenter à plus de 50 domaines avec la nouvelle constitution. Alors, lisez ce document avant de l'adopter. Oui. Je pense que la question de mon camarade de parti est tout à fait différente. Quelque chose qui est essentiel pour la crise de l'Union européenne. Il n'y a pas seulement une crise des institutions européennes. La commission présidée par M. Barroso, qui l'aime autant. Moi, je l'aime un peu moins, même si c'est un Portugais. Je ne l'aime pas politiquement, comme homme, oui. La commission présidée par M. Barroso, nous, en tant que Parlement européen, pouvons agir et nous agirons et nous agissons. Ce que nous avons vu, c'est que ceux qui n'agissent pas, ce sont les gouvernements des États membres de l'Union. À chaque fois qu'ils se réunissent, ces 27 chefs d'État et de gouvernement font un spectacle véritablement triste. Ils bloquent cette Europe. Ils disent ensuite que c'est l'Europe. Non, c'est un congrès de Vienne permanent des chefs d'État et de gouvernement qui, à huis clos, ne peuvent se mettre d'accord sur rien. Et ensuite, à dernière minute, disent que c'est l'Europe. Non, ce n'est pas l'Europe. C'est simplement l'utilisation des États nationaux autour d'une même table. C'est le contraire de ce qu'est la démocratie européenne. Que nous ayons été renforcés comme Parlement européen, c'est une bonne chose. Parce que, comme nous l'avons fait au cours des deux dernières années, pour de nombreuses législations, nous pouvons orienter les choses dans le bon sens. Je vois qu'il y a quelques divergences entre les institutions européennes, mais c'est très bien. Joseph Daul d'abord, avant de donner la parole à un autre jeune de Beur intérieur.
Le Parlement est démocratiquement élu. Démocratiquement élu, à la base, par nos concitoyens européens. Et une fois qu'on est élu, je crois que tu ne me contrediras pas, il faut que nous prenions les responsabilités pour 5 ans. Si nous avons mal travaillé, prochaines élections, vous changez. Donc, à certains moments, on ne peut pas faire des référendums pour faire des référendums. C'est ça aussi que je voudrais dire. Donc, on a une responsabilité, et c'est vous qui décidez si vous nous renvoyez au Parlement ou pas au Parlement. Donc, c'est très bien que dans cette Constitution, nous avons plus de pouvoir. Et je crois que c'est là aussi, et nous sommes obligés de travailler avec 27 pays à trouver des compromis, même encore plus que le Conseil. Donc nous essayons, dans ce Parlement démocratiquement élu, pendant 5 ans, à trouver des compromis pour le bien de l'Europe. Et c'est vrai qu'à 27, c'est plus difficile quand nous devons trouver des compromis. Je regarde les démocrates autour de moi. Mais nous sommes démocratiquement élus et nous devons prendre nos responsabilités. Nous les prenons.
Je vous en prie. Bon après-midi. Il s'est produit ce que je pensais qu'il allait se produire, ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire que ça fait 1 heure qu'on est ici et personne n'a encore parlé de culture. Le mot n'a pas été prononcé. La culture, c'est quelque chose de fondamental pour l'évolution de n'importe quel État ou n'importe quel regroupement d'États. Parce que la culture, c'est quelque chose d'incommode et de ce fait, cela crée des conflits et donc ça permet de faire évoluer la pensée humaine. Ce que je voudrais dire, c'est quelque chose qui est lié à la culture. Un jeune, un Portugais qui souhaite devenir un pianiste, il doit par exemple acheter un piano et pour cela, il lui faut au moins 20 salaires minimum au niveau national. Si on va en Espagne, il a besoin de 15 salaires. Si on va au Luxembourg, il a besoin de 6 salaires. C'est ça que j'appelle la différence en matière d'inégalité des chances. Donc j'aimerais savoir quand est-ce que l'Europe, dans la pratique, permettra d'avoir une égalité des chances pour tous les jeunes. Qui souhaite répondre?
Une question. Avant que le Portugal était européen, il fallait combien de salaires? Qu'est-ce que l'Europe vous a apporté depuis que vous êtes en Europe?
Bien évidemment, l'Europe a apporté des choses très positives. Toutefois, lorsqu'on parle d'un groupe de pays, Nous, nous supposons que tous dans ce groupe pourront vivre de façon égale. En tout cas, c'est l'objectif de toute personne intégrant cette communauté. Alors, je ne dis pas que l'Europe a apporté quelque chose qui était mauvais. Mais j'aimerais qu'on obtienne des points aussi positifs que dans les autres pays. Francis Vaught.
Il y a une dimension culturelle qui dépend directement de l'Europe. Et j'ai été surpris que devant un parterre de jeunes, personne ne l'évoque jusqu'à présent, c'est les bourses Erasmus. C'est-à-dire les bourses qui permettent à des jeunes étudiants et étudiantes de passer une année de leur cursus universitaire dans un autre pays européen. Je trouve que s'il y a une mesure extraordinairement positive dans la politique européenne, c'est les bourses Erasmus. Ce que je regrette, c'est la faiblesse des budgets qui sont alloués, puisque aujourd'hui, en moyenne, il n'y a que 1% des étudiants européens qui en bénéficient, ce qui est évidemment ridiculement peu. Mais c'est un élément culturel formidable. Pas seulement parce que ça permet de se confronter à d'autres cultures, à d'autres langues, mais parce que ça favorise l'ouverture d'esprit et donc la préparation à une vision moderne du monde, tolérante, fraternelle. Donc je plaide pour ma part au Parlement européen avec mon groupe pour une revalorisation substantielle des bourses Erasmus pour permettre là aussi de surmonter les inégalités d'accès, puisque s'il n'y a que 1% qui peut y accéder, ce n'est plus un droit, c'est un privilège. Nous voulons en faire un droit pour l'ensemble des jeunes européens.
En fait, le Premier ministre portugais va rencontrer des jeunes qui participent au programme Erasmus. Il s'agira de jeunes venant de plusieurs pays. Je souhaiterais vous donner la parole, mais très brièvement. Comme ça, on pourrait passer à une nouvelle question, parce qu'on est déjà dans la ligne droite finale du programme. Alors, si vous le permettez, j'aimerais dire quelques mots sur ce que le collègue Vaught a dit. Vous savez que le cadre financier 2007-2013 a été fixé sous présidence autrichienne. Il y a eu un sommet à Bruxelles, et là, les chefs d'État et de gouvernement ont pris une décision, et tous pensaient que c'était un résultat définitif. Et à l'époque, nous avions dit au chancelier autrichien, qui était le président du Conseil, que si vous ne modifiez pas votre décision, nous, Parlement européen, nous dirions non. Et nous avons réussi à faire en sorte que les crédits pour Erasmus et les crédits dévolus à la culture, je pense qu'il s'agissait de quelques 2 milliards d'euros qui avaient été déboursés de façon supplémentaire. Nous avons insisté sur cela, nos parlements européens. Alors peut-être qu'au Parlement européen, on commet des erreurs parfois. Personne n'est exempt d'erreurs. Certains pensent qu'il a la vérité en exclusivité, ce n'est pas vrai, mais si on peut être fier d'une chose au Parlement européen, et je souhaite le mettre en avant, c'est que nous avons réussi à faire en sorte que les crédits pour les rencontres d'écoliers et de travailleurs, et pour Erasmus et pour la culture, soient augmentés. Et cela, nous avons forcé les États, chefs d'État et de gouvernement, à prendre cela en ligne de compte lors de la décision finale. Pedro Roma, vous êtes représentant du Parlement des jeunes. Alors, tout d'abord, Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur le Président des groupes parlementaires, Mesdames et Messieurs, je dois dire tout d'abord que c'est une fierté pour le Portugal et pour moi-même que d'avoir Durão Barroso au poste de Président de la Commission européenne. Et je suis sûr que cela m'a rapproché de l'Europe, à titre personnel. En tant que Portugais et en tant qu'Européen, on devrait être fiers de cela. Donc, honneur à Durão Barroso. Au-delà de cela, je pense que les initiatives telles que celles-ci sont l'essence même de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il faut un débat avec les jeunes, il faut ce rapprochement. Donc, merci pour cela également. Ma question est la suivante. L'Union européenne ne devrait pas faire plus attention dans ses relations avec les grandes puissances internationales. Par exemple, la Chine, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'au Portugal, il y a un cas qui nous est proche. Nous avons été envahis par les boutiques chinoises. À mon avis, il devrait y avoir un peu plus de protection. la question de la protection a déjà été soulevée. Je vais vous demander de garder cette question sous le pied. Je vais maintenant donner la parole au représentant du corps national des scouts. Bon après-midi à tous. Alors, on parle du chemin parcouru pour la mise en place d'une véritable Union européenne. La mise en place d'un marché commun, un élargissement des frontières progressif et un approvisionnement en énergie de toutes les nations. Mais on sait qu'il y a des compétences. Alors, la question, elle est laquelle? Alors, la question à venir. Il reste très peu de temps, malheureusement. Comment est-ce qu'on va reconnaître les différentes compétences qui sont acquises tout au long de la vie associative des jeunes sur le marché de l'emploi? Comment est-ce que ça sera reconnu? Comment est-ce que tous les jeunes qui ont fait partie d'un mouvement associatif verront leurs compétences reconnues, leurs capacités reconnues, bien que ces capacités, ces compétences ne soient pas reconnues par le biais d'un diplôme d'université, par exemple? Je vais donner la parole à trois personnes, Brian Colley, M. Watson et après le président européen qui va conclure. Président du Parlement européen qui va conclure.
Et moi aussi, j'ai été scout et je voudrais dire que le travail, l'éthique d'un tel mouvement reste dans votre cœur, dans votre âme pour toute la vie. Et il faut précisément continuer à donner cet exemple par votre volontarisme. Et c'est peut-être ce qui manque dans le projet européen. Il y a beaucoup d'économie, beaucoup d'environnement, de social. Mais l'aspect volontariste, il faudrait qu'il y ait une association. Il y a 4 ans, c'était l'année des associations de jeunes, et c'est vous et des associations comme vous qui devons nous faire prendre conscience, parce que si ce n'est pas vous et qui nous le dites, à ce moment-là, cela peut être utile pour tous. Monsieur Watson, merci. Je vais également essayer d'être bête. Nous avons fait quelque chose de très important. Nous venons de jeter les bases politiques pour promouvoir la démocratie par l'étude de la société, des fondations politiques qui permettront d'aider des parlements de jeunes pour faire leur travail. C'est très important. Nos ministres de l'Éducation se penchent sur un projet pour avoir un livre d'histoire commun en Europe, afin que nous puissions enseigner l'histoire de l'Europe de la même façon dans toutes nos écoles. C'est très important pour la culture européenne. Et lorsque nous aurons construit ce type de société de démocratie participative, à ce moment-là, nous pourrons mieux aborder, par exemple, la Chine. Nous avons encore beaucoup à faire pour convaincre les Chinois que la démocratie, c'est la seule valeur pour l'avenir. Maintenant, pour un importateur de pianos de Taïwan, on peut peut-être essayer de faire qu'il puisse exporter des pianos. Je voudrais dire qu'il y avait encore beaucoup de demandes de parole des jeunes. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Je vais maintenant demander au président du Parlement européen quelles sont les idées du Parlement européen sur la présidence portugaise et que vous disiez quel est le point de vue sur la ratification de ce nouveau traité. Faut-il un référendum? Ensuite, je vais encore donner la parole au représentant du Parlement portugais qui remplace M. Gama qui a dû partir. Oui, vous avez posé des questions, je dois donc y répondre. Je voudrais commencer par dire que je pense que la présidence portugaise sera couronnée de réussite et à plusieurs occasions, j'ai pu coopérer avec votre Premier ministre, José Sócrates, qui appartient au parti de Martin Schulz. Et cela fait longtemps que je coopère très bien avec le président de la Commission européenne, qui est également social-démocrate, mais c'est plutôt un parti qui est du côté de Joseph Daul et de moi-même. En tant que président du Parlement européen, je veux être objectif. Je peux coopérer avec les deux, ce qui veut dire que nous avons une responsabilité pour l'Europe. C'est cela qui est important. Et pour terminer, je voudrais dire que la chancelière Angela Merkel, qui s'est adressée hier au Parlement européen, a dit « La confiance se crée sur de nombreuses années, parfois même des décennies, mais la confiance peut être troublée en une nuit » et elle a pensé aux discussions à Bruxelles de la semaine dernière. Je voudrais vous donner un conseil, si vous me le permettez. Tout d'abord, vous devez apprendre d'autres langues afin qu'on puisse se comprendre. Moi, j'aimerais parler portugais avec vous, malheureusement. Mais j'ai une tante qui était très souvent à l'école allemande et le premier pays dont j'ai entendu parler quand j'étais enfant, c'était le Portugal et Lisbonne parce qu'elle parlait toujours du Portugal. Donc, tout d'abord, apprenez les langues. Autre point que je voudrais signaler, la confiance doit se développer, doit évoluer. Et cela ne peut être le cas que si on écoute. Et lorsqu'on écoute, on apprend. Et lorsqu'on apprend, on comprend. Et ce n'est que lorsque l'on comprend les autres, et nous sommes une culture très diverse en Europe, mais une culture très riche, et nous devons faire en sorte que cette diversité puisse nous permettre de créer l'unité tout en préservant la diversité et nos valeurs. Ceci signifie qu'en Europe, nous devons être disposés, grâce à l'apprentissage, par la compréhension, d'aboutir à des compromis. Ceux qui veulent toujours faire triompher leur idée portent atteinte à l'Europe. Et c'est pourquoi les grands partis européens, y compris les plus petits également, doivent être disposés à des compromis afin que ce continent européen ait un avenir dans la démocratie, dans un état de droit et dans la paix. Voilà quelle sera la tâche de notre génération. Et ce sera votre tâche lorsque vous aurez des responsabilités politiques au Portugal ou en Europe. Et je voudrais vraiment vous remercier de cette discussion très intéressante et je vous souhaite à tous bonne chance. Merci encore.
Je pense qu'il est peut-être un peu prématuré de dire quelle sera la méthode de ratification du traité. Est-ce que vous pensez que c'est prématuré de dire quelle sera la méthode de ratification du traité? Malika Frassoni va parler ensuite. Le Parlement européen n'a pas encore pris de décision concernant le processus de ratification. Est-ce qu'il va y avoir un référendum ou pas de référendum? À titre personnel, à titre très personnel, moi, je pense que si ça avait été possible, malheureusement ce n'est pas possible, j'aurais aimé que dans tous les pays de l'Union européenne, il y ait un référendum et on décompterait ensemble les bulletins. Et ça supposerait qu'on puisse voter dans la même année dans tout pays. Or, ce n'est pas possible. Alors moi, j'aurais aimé qu'il y ait un référendum à l'échelle de l'Union européenne. Alors, la décision doit être prise au niveau national, la question de savoir s'il faut un référendum ou pas. Moi, je suis partisan du système parlementaire, c'est-à-dire que les responsables politiques nationaux doivent assumer des responsabilités pour les questions nationales, et par conséquent, je conseille d'effectuer la ratification par le Parlement, mais tout un chacun peut avoir son opinion propre, et par conséquent, ici, il n'y a pas de prescription qui émane du Parlement européen sur cette question. C'est une question qui est du ressort de Cavaco Silva et du Premier ministre José Sócrates et des partis de prendre cette décision qui consiste à dire s'il faut une décision par voie parlementaire ou par voie référendaire. Personnellement, je suis pour une décision par voie parlementaire. Monsieur Carnage, vous avez la parole. Merci. Je souhaite dire que j'ai beaucoup aimé ce débat. Ça a été un débat très vif, très dynamique, avec beaucoup de positions exprimées. Parfois, ça a été assez difficile de comprendre exactement où se trouvait la ligne de démarcation et où étaient les lignes de divergence, parce qu'il y avait beaucoup d'opinions exprimées, mais je pense que le débat était très bon. Et c'est ce type de débat qu'on aime ici à l'Assemblée de la République. J'aimerais vous dire que je pense que l'Europe est sur le point d'ouvrir une nouvelle page, non pas seulement du fait des décisions qui doivent être prises et du fait du consensus qu'on a réussi à obtenir lors du dernier Conseil européen, mais également parce qu'on remarque qu'il y a une recrudescence, une réapparition de l'optimisme des citoyens européens. Et il est bon que la présidence portugaise arrive à ce moment, parce que le Portugal pourra contribuer à l'avenir de l'Europe et pourra contribuer à l'approfondissement de l'Europe. Ce débat devait porter essentiellement sur les questions institutionnelles, sur les institutions de l'Union européenne, mais ce n'est pas un hasard si d'autres questions diverses ont affleuré. Je pense par exemple à la question du mouvement associatif, la question de la mondialisation, la question de la culture, la question du changement climatique, des taxes, des impôts. Enfin, il y a eu beaucoup de questions abordées. Et pour résoudre ces questions et pour répondre aux questions que vous avez posées, les institutions européennes s'apprêtent à franchir un pas vers l'avant et à suivre un progrès de l'Europe grâce à un nouveau traité. Le traité qui essaie précisément de répondre à ces questions. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un leadership de l'optimisme et de la confiance en Europe. Et je pense que les jeunes sont la source à laquelle on pourra essayer de puiser cette confiance et cet optimisme, étant donné que l'Europe est plus entre vos mains qu'entre les nôtres. Merci. Merci. Le débat de la conférence des présidents du Parlement européen à la veille de la présidence portugaise de l'Union européenne a eu lieu. C'est un moment historique pour le pays. Le Portugal a actuellement Durão Barroso, président de la Commission européenne, et à partir du 1er juillet, le Portugal aura également la présidence de l'Union européenne au Conseil, sans la personne de José Sócrates. Merci, bonne soirée.